Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine préparé par les élèves du collège Louis Armand de Dreux. Je suis Najwa et aujourd'hui nous allons vous parler des maisons de retraite, de la réforme de l'orthographe, des pesticides mais aussi des allergies, des voyages scolaires, des mangas. Nous parlerons aussi de l'Euro 2016 et des Jeux Olympiques, des compétitions, des jeux vidéo et pour finir les overboards. Mais pour commencer, Ilyes et Moussa, pour une chronique consacrée aux migrants.
Nous avons choisi ce sujet à cause de la situation actuelle. On entend beaucoup parler des migrants dans l'actualité. En France, les migrants ils se trouvent particulièrement dans la région Nord-Pas-de-Calais, car la plupart ils veulent aller en Angleterre, où on peut trouver un travail plus facilement. Tout d'abord, nous allons vous parler des différents types de migrants et de leur motivation. Puis, nous nous sommes intéressés à la situation actuelle pour savoir d'où viennent ces migrants et quels sont les pays qui les accueillent.
Qu'est-ce qu'un migrant ? Un migrant, c'est quelqu'un qui quitte son pays. Il peut aller dans le pays d'à côté ou très loin. Dans l'histoire du monde, il y a toujours eu des migrants. Il existe différents types de migrants dans le monde. Les migrations de conquête, invasion d'un nouveau pays pour le conquérir, comme les invasions barbares au 3e ou 5e siècle après Jésus-Christ en France. Les migrations refuge ou l'exil politique, par exemple le Mayflower est un bateau marchand qui a mené de nombreux protestants anglais voulant fuir les persécutions s'installer dans le Nouveau Monde. Les migrations économiques, comme par exemple l'exode rural où les gens de la campagne viennent chercher du travail en ville. Les migrations familiales, les immigrés qui ont trouvé du travail dans un pays font venir leur famille.
Notre époque repose beaucoup sur la mobilité, notamment géographique, avec la mondialisation. La mondialisation, c'est l'ouverture des frontières et cela permet la libre circulation des hommes et des biens, c'est-à-dire le commerce. Cela a entraîné une nouvelle forme de migration. L'expatriation, certaines personnes décident de partir pendant un certain temps parce qu'ils ont envie de découvrir une autre culture, une autre qualité de vie ou parce que leur patron leur a proposé de travailler ailleurs dans un autre pays.
Mais d'autres migrants ne choisissent pas vraiment de quitter leur pays. Ils auraient préféré rester chez eux, mais la vie y est trop difficile. C'est d'eux qu'on parle beaucoup aux informations en ce moment.
Actuellement, les migrants qui arrivent en Europe viennent surtout d'Afrique et d'Asie. En ce moment, ils viennent particulièrement de trois pays loin de chez nous. La Syrie, l'Érythrée et l'Afghanistan. L'an dernier, un migrant sur deux venait de Syrie et d'Érythrée.
Pour quelles raisons les migrants viennent ? Cette nouvelle vague de migrants fuit les guerres du Moyen-Orient, par exemple en Syrie, en Irak, ou les révolutions du printemps arabe en Libye, en Égypte. Ils fuient pour ne pas se faire tuer et offrir un avenir à leurs proches et à eux-mêmes. Ils sont prêts à tout pour quitter leur pays. D'ailleurs, on entend parler régulièrement de l'actualité de bateaux surchargés qui ont fait naufrage avec des centaines de personnes, avec des femmes, des enfants.
L'année 2015 a été une année record, avec environ 1 million de migrants entrant en Europe. Pour le moment, seuls les pays européens les accueillent, comme l'Allemagne, la France. Le maire de Paris, Anne Hidalgo, veut créer un centre à Paris pour mieux accueillir les migrants. Il y a aussi la Turquie qui accueille plus de 2 millions de réfugiés, alors que sa population est de 75 millions. On peut donc se demander pourquoi les autres puissances économiques non européennes, comme la Chine ou les États-Unis ou le Japon, n'en accueillent pas aussi. Ces malheureux migrants qui rêvent juste d'un avenir meilleur.
En conclusion, ce sujet m'a beaucoup plu, c'est un sujet complexe. Les migrants quittent souvent leur pays car ils n'ont pas d'autre choix. C'est normal de fuir la guerre ou la pauvreté. Il faut leur laisser une deuxième chance pour un avenir meilleur. Le plus important est l'entraide et la solidarité.
Ce sujet m'a touché car ça parle de l'actualité, de quelque chose de réel. Ces personnes y risquent leur vie, donc il faut les accueillir car cette situation elle peut arriver à tout le monde. Il faut leur tendre la main.
Je trouve que ce sujet est très intéressant et très important car c'est un sujet récent et dont on entend beaucoup parler dans les informations. Maintenant, Kenza et Melina sont avec nous pour nous parler des maisons de retraite.
Les maisons de retraite sont des résidences collectives destinées aux personnes âgées de plus de 60 ans et se trouvant en situation de perte d'autonomie, que ce soit au niveau psychique ou physique, et qui ne sont donc plus aptes à vivre seules. Nous nous sommes posé une question. Les Français en général ont une mauvaise image des maisons de retraite. Mais cette image reflète-t-elle la réalité ?
Nous allons vous présenter ce sujet en trois parties. Tout d'abord, on verra ce qu'est une maison de retraite et ce qu'on peut y trouver. Ensuite, nous allons parler des inconvénients et des bienfaits des maisons de retraite avec un avis d'une personne travaillant dans le domaine. Et en dernier, nous allons voir pourquoi certaines personnes cherchent d'autres solutions aux maisons de retraite et quelles sont ces alternatives.
Tout d'abord, les maisons de retraite sont des espaces dédiés à l'accueil des personnes âgées nécessitant une prise en charge et un suivi complet et permanent. Dans ces établissements, il y a une équipe soignante chargée d'assurer les soins nécessaires à chaque résident en fonction de sa situation. Les maisons de retraite aident à la vie quotidienne et offrent des services comme la restauration, la blanchisserie, de l'animation, des sorties, des activités, des soins esthétiques, etc. Il y a différents types de maisons de retraite. On retrouve
des maisons de retraite médicalisées destinées aux seniors dépendants et désirant disposer d'aide à la vie quotidienne tout en maintenant un certain degré d'autonomie. Il y a aussi des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes disposant d'un personnel médical spécialisé dans le traitement des patients atteints par la maladie d'Alzheimer. Les activités proposées par ces maisons de retraite ont été tout particulièrement pensées pour répondre au mieux aux besoins de leurs résidents. Les unités de soins de longue durée, ces établissements représentent la meilleure solution à adopter lorsque les seniors sont en perte d'autonomie totale et dont l'état de santé demande une surveillance médicale constante. Ces structures détiennent un équipement médical renforcé afin que les résidents soient totalement pris en charge.
Ensuite, d'après un sondage réalisé en 2009, 52% des personnes interrogées ont une mauvaise image des maisons de retraite. 40% pensent que les personnes âgées y sont maltraitées à cause de certains faits médiatisés. Et 97% des sondés trouvent que cela coûte trop cher, vu que le prix moyen d'une maison de retraite est de 2 200 €, mais il faut savoir que cela peut même dépasser les 5 000 € par mois.
Comme toute chose, les maisons de retraite ont des avantages comme des inconvénients. Dans les points positifs, les personnes âgées se trouvant dans les maisons de retraite s'épanouissent beaucoup plus puisqu'elles ne sont pas isolées et passent des moments de convivialité. Ces établissements leur permettent donc de retrouver goût à la vie collective et d'avoir un environnement social. De plus, elles bénéficient d'une surveillance médicale qui permet de prévenir des problèmes de santé.
Malheureusement, trop souvent les maisons de retraite manquent de personnel. Et le fait que les maisons de retraite soient en sous-effectif ne cause pas de la maltraitance, mais du manque de bien-traitance, car comme il n'y a pas assez d'effectifs, le personnel doit être plus rapide afin de pouvoir gérer toutes les personnes, et négligeant sans le vouloir quelques personnes. De plus, certaines personnes âgées, beaucoup trop habituées à ne plus faire certains actes simples car le personnel s'en charge à leur place, oublient les notions des actes quotidiens et se retrouvent incapables de les reproduire. Dans les points négatifs, on peut aussi retrouver le coût élevé des maisons de retraite.
Nous allons voulu vérifier nos recherches en questionnant une personne travaillant dans une maison de retraite. Cette personne est aide médico-psychologique, c'est l'équivalent d'une aide-soignante. Elle accompagne les personnes âgées dans tous les actes de la vie quotidienne. En ce qui concerne la maltraitance, elle trouve qu'il n'y en a pas. En tout cas, pas de violence volontaire, mais à cause du manque de personnel, parfois certaines personnes âgées peuvent se sentir maltraitées. Mais elles ne le sont pas réellement, car elles peuvent se sentir maltraitées si on les a réveillées plus tôt qu'elles ne l'auraient voulu, ou on les a forcées à se laver afin de garder une bonne hygiène. Ce sont des actes indispensables et certaines personnes âgées n'en ont pas envie. Souvent, lorsque des personnes âgées ne rentrent pas de leur plein gré dans les maisons de retraite, elles ne veulent pas manger ou faire un quelconque acte et lorsque le personnel insiste, elles deviennent agressives et en se comportant ainsi, elles se font du mal.
Donc, d'après ce témoignage, c'est vrai qu'il n'y a pas de maltraitance, en tout cas pas dans les maisons de retraite où travaille cette personne. Mais selon elle, les principaux points négatifs seraient qu'il n'y a pas assez de personnel, pas assez de matériel, pas assez de moyens. Et les personnes qui travaillent dans ce domaine sont en sous-effectif et ne sont pas assez rémunérées. Il y a évidemment des points positifs, comme le fait que les personnes âgées disposent de beaucoup d'activités, comme de la gymnastique douce, des activités manicure, parfois des sorties au cinéma, au marché, couvert, de la lecture de journaux, des activités de bien-être.
Enfin, nous avons essayé de voir les autres alternatives pour ceux qui ne souhaitent pas aller en maison de retraite ou n'en ont pas les moyens. La principale est le maintien à domicile. On estime qu'il y aurait 3,5 millions de Français qui soutiendraient au quotidien un proche dépendant.
C'est-à-dire la personne âgée choisit de rester chez elle, mais son domicile doit être sécurisé pour prévenir les chutes. Cela nécessite donc quelques travaux. La personne âgée est aidée au quotidien par un proche ou une aide à domicile, qui aide à la toilette, prépare les repas, s'occupe des tâches ménagères. Cette situation peut être lourde à porter pour la famille, mais elle permet aux personnes âgées de rester dans leur environnement, de garder une certaine autonomie et une vie sociale.
En conclusion, nous devons relativiser la mauvaise image des maisons de retraite, car il est vrai qu'il y a quelques cas de maltraitance, mais cela ne doit pas se refléter à l'échelle de la France. Il ne faut pas généraliser. Pour le coût élevé des maisons de retraite, c'est une réalité malheureusement, mais c'est cela qui empêche certaines personnes ayant besoin d'aller en maison de retraite de pouvoir s'y rendre.
Nous nous posons aussi une autre question. Si les Français ont une si mauvaise image des maisons de retraite, alors pourquoi y a-t-il autant de Français qui mettent leurs parents ou grands-parents en maison de retraite, alors qu'il y a d'autres alternatives? Ne serait pas simplement pour s'en débarrasser, c'est-à-dire se décharger de leurs responsabilités?
Nous pensons que les maisons de retraite peuvent être une bonne solution, puisqu'ils bénéficient de soins et d'aide et peuvent y passer leurs derniers moments de leur vie.
Ce sujet nous a permis de découvrir certains aspects des maisons de retraite que nous ne connaissions pas.
Merci de nous avoir parlé de ce sujet. Je trouve que ce sujet est très important car les personnes âgées ont elles aussi besoin qu'on prenne soin d'elles et qu'on leur fasse plaisir. Tout de suite, Aimé Huissal va nous parler de la réforme de l'orthographe.
On nous parle régulièrement de la réforme de l'orthographe, celle de 1990. En particulier, c'est la simplification et la clarification de la langue française. On entend des débats passionnés et même passionnants, avec des voix qui sont pour et des voix qui sont contre.
Qu'en est-il ? Faut-il vraiment prendre de nouvelles habitudes ? Faut-il modifier l'orthographe des mots que l'on savait pourtant écrire sans faute ? Ceux qui ne savent pas seront-ils davantage ?
En 1990, le Conseil supérieur de la langue française crée pour conseiller le gouvernement sur la question des évolutions de la langue. Il propose des rectifications sur à peu près 2000 mots, soit 5% de notre vocabulaire habituel.
C'est des rectifications qui ont été approuvées par le Conseil international de la langue et par l'Académie française. Mais le changement de certains mots ne rend pas l'ancien orthographe faux, car les deux écritures seront comptées comme correctes. Rares sont les dictionnaires ou les livres de grammaire qui sont écrits avec la nouvelle réforme. Elle n'est pas forcément respectée par tout le monde.
80% des Français se sont opposés à la réforme dans les manuels scolaires. La plupart des jeunes adultes français, ils maîtrisent 51% des 84 règles de la base en 2010. Et aujourd'hui, seulement 45 les savent. Cela concerne les femmes et les hommes. Alors le niveau a baissé de 6 points en 5 ans.
Il y a des collégiens qui maîtrisent seulement 26% des règles, les lycéens 35,5%. Pour les étudiants, il n'y a que 43% et pour les salariés, on en est à 54%.
Pour connaître l'opinion des gens sur cette réforme, on a posé 3 questions à des personnes dans la rue, dans notre ville.
Vous êtes d'accord avec la nouvelle réforme de l'orthographe ?
Je ne trouve pas d'intérêt particulier. Pour les anciens comme moi, on est habitué à notre système.
Non, alors là non, pour le coup, pas du tout.
Oui, il faut bien réformer de temps en temps.
Pas tout à fait, non, pas trop même. Je pense qu'il y a certains mots qui sont dénaturés et je trouve ça dommage. Dans certains livres, on va avoir une certaine orthographe et maintenant les mots vont changer, l'orthographe va changer. Donc oui, forcément, ça va être compliqué pour certaines personnes et pour l'apprentissage.
Non, pas du tout, surtout pour les anciens.
Pourquoi ?
Ah, parce que maintenant, je vais faire des fautes, alors je ne faisais pas, j'étais bonne en orthographe. À moins que les deux soient acceptés, les deux orthographes soient acceptées. Mais moi qui étais bonne, on va dire, en orthographe, maintenant, on va plus savoir qui fait des fautes, si c'est bon, si... Non, moi, je trouve ça débile.
Ça facilite trop l'écriture pour les enfants. Et puis, c'est un peu taché, la langue française.
Vous pensez que cela va aider les jeunes ?
Non, pas du tout. Déjà, on va dire, entre guillemets, on les critiquait avec quand ils faisaient des textos sur leur téléphone parce qu'ils faisaient des fautes. Mais alors là, ça les encourage à faire plus de fautes. Qu'est-ce qu'ils vont gagner en changeant l'orthographe ?
Ça pourrait aider, mais au final, je pense pas que ce soit une très bonne idée.
En En conclusion, la plupart des Français sont contre la nouvelle réforme. Ils pensent que le niveau d'orthographe de la population française peut encore diminuer. Pour moi, la nouvelle réforme ne sert pas à grand-chose. Presque personne ne la respecte. En changeant l'orthographe des mots, c'est comme si on pensait que les jeunes étaient idiots et qu'il faut tout simplifier pour eux.
Moi, je pense que cette réforme, elle pourra aider les futures générations qui rencontreront moins de difficultés, car c'est mieux que cela soit plus facile pour eux.
Je trouve ce sujet intéressant, car il y a des personnes pour et contre, donc si l'on change l'orthographe de certains mots, le niveau risque de fortement baisser. Nous allons maintenant parler des pesticides dans la chronique Environnement présentée par Dylan.
Un pesticide est une substance chimique utilisée pour lutter contre les insectes. Des plantes connues pour leurs propriétés toxiques ont été utilisées comme des pesticides depuis le début de l'agriculture. Les pesticides sont partout. On trouve des pesticides dans l'air, dans la nourriture et dans la nature. Depuis les années 1900, l'agriculture industrielle a banalisé l'utilisation de pesticides chimiques et dans nombreux cas, ils sont répandus de façon préventive. Nous sommes donc tous exposés à ces pesticides à travers notre nourriture, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons et même à travers la poussière dans nos maisons. Les pesticides ont nombreux avantages. Les pesticides sont utilisés pour protéger les cultures et les récoltes des insectes. Avec les insecticides, des mauvaises herbes avec des herbicides, des maladies comme les moisissures avec les fongicides afin d'avoir une production en grande quantité. Cette utilisation intensive des pesticides est dangereuse pour l'environnement car elle provoque une contamination des milieux naturels comme les sols, l'eau, mais aussi l'air. Les pesticides ont ainsi de nombreuses conséquences sur la santé animale et végétale, mais aussi sur les êtres humains. Par exemple, un pesticide nommé Roundup a été prouvé très dangereux pour la santé humaine et surtout pour la santé des enfants et des personnes âgées. Bien sûr, il existe des solutions. Il faut passer à l'agriculture écologique. Elle est la seule à pouvoir produire une alimentation saine pour aujourd'hui et les générations à venir. Il est donc nécessaire d'aider les agriculteurs à mettre en place des solutions alternatives aux pesticides. Greenpeace demande au gouvernement français et à l'Union européenne d'interdire l'utilisation des pesticides chimiques et de réorienter les dépenses publiques liées à la recherche et à l'accompagnement des agricultures afin de favoriser des pratiques écologiques comme la diversité des cultures et la rotation. En conclusion, les pesticides sont des produits utiles mais trop dangereux pour notre santé. Et je pense que les pesticides devraient être mieux réglementés et même interdits dans certains cas. Merci de votre attention.
Ce sujet dont nous a parlé Dylan a des côtés positifs et négatifs. Nous vivons entourés de pesticides, mais cela peut être très dangereux pour nous. Je vous retrouve maintenant avec Marine pour vous parler des allergies.
Les allergies touchent de plus en plus de personnes. Un quart des Français présenteraient des réactions allergiques et les allergies sont passées du 6e au 4e rang, des maladies les plus fréquentes selon l'OMS.
Cette augmentation a surtout lieu dans les pays occidentaux. C'est donc pour cette raison que nous nous sommes intéressés à ce sujet. On va commencer par vous expliquer ce qu'est une allergie. Nous allons ensuite vous parler des allergies les plus fréquentes, comment elles se manifestent et leurs conséquences. Pour finir, nous essayerons d'expliquer les causes de celles-ci. Nous donnerons notre avis personnel sur le sujet.
Alors d'abord, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'une allergie ? Alors une allergie, c'est une défaillance de notre système immunitaire. Au lieu de nous défendre contre une agression extérieure, notre corps en fait trop et se met à réagir contre les substances étrangères qui sont appelées allergènes. Un allergène, c'est tout simplement une substance qui peut avoir différentes formes et qui peut même ne pas être détectable à l'œil nu, comme certaines plantes ou même les acariens.
Tout le monde peut donc avoir une allergie, mais les enfants sont susceptibles d'avoir plus facilement des allergies que les adultes, car ils possèdent des anticorps qui ne sont pas encore tout à fait développés. Ils sont 3 fois plus concernés que les adultes. C'est souvent à l'enfance que les personnes développent des allergies, comme leur défense immunitaire n'est pas élevée.
Quelles sont les allergies les plus courantes ? Il y a des allergies que beaucoup développent et qui reviennent souvent. Il y a les allergies alimentaires qui sont très fréquentes. 40% des personnes pensent être allergiques, mais il n'y a finalement que 2% des adultes et 8% d'enfants qui possèdent réellement une allergie alimentaire.
C'est le plus souvent les intolérances à l'arachide, au kiwi, au blé ou même au soja ou lactose, mais encore au gluten. Il y a l'allergie aux acariens. Les acariens sont des allergènes présents partout, comme sur les matelas, les chaises. C'est une allergène récurrent. Et pour finir, il y a aussi l'allergie au pollen fréquente au printemps.
Donc une allergie se manifeste par la libération d'une substance appelée l'histamine, qui est responsable d'un certain nombre de symptômes. Il y a le gonflement rapide de la peau sur les lèvres, les paupières ou même les joues, etc.
Le patient peut également être victime de vertiges, de syncope, d'évanouissement et de vomissement. Les allergies alimentaires aux médicaments ou même au latex, par exemple, sont très souvent responsables d'eczéma ou d'urticaire.
Le nez bouché, des écoulements nasals, des éternuements ou même les yeux rouges traduisent plutôt une allergie dont le siège est respiratoire. Donc maintenant, quelles sont les causes des allergies ? Alors les causes sont la pollution, l'addiction à des aliments, ce qui provoque la saturation du corps humain. Et ensuite, il va se protéger avec des réactions allergéniques.
Donc les pesticides sont généralement des produits qui provoquent des allergies. Ce sont les allergènes très récurrents. En conclusion, nous pouvons dire que les allergies concernent tout le monde. Elles se manifestent souvent par les mêmes allergènes et se développent généralement à l'enfance.
Les causes sont multiples et les conséquences peuvent être très graves. C'est pour cela qu'il faut faire des dépistages. Le dépistage peut se faire à l'hôpital ou dans des centres médicaux spécialisés.
Ce sujet m'a permis de mieux connaître les allergies, leurs risques et leurs conséquences sur la santé. J'ai compris qu'il est important de bien s'informer des symptômes pour être sûr de ne pas avoir d'allergie grave.
Alors pour moi, je trouve que ce sujet a été très intéressant. Il m'a permis d'être plus vigilante sur les risques et les conséquences dues aux allergies. Ainsi, j'ai l'impression de savoir plus de choses maintenant sur ce sujet, surtout que dans ma famille, il y a plusieurs personnes allergiques. J'ai pu comprendre d'où ça venait.
Maintenant, Corentin et Marie nous parlent des voyages scolaires.
Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des voyages scolaires comme nous avons voulu en savoir plus. Nous avons interviewé Madame Dupuis, principale de notre collège. Quels sont les voyages scolaires organisés dans le collège ?
Alors cette année dans le collège, j'ai eu un voyage au ski pour les 6e, un voyage en Provence pour les élèves plutôt latilistes, un voyage en Allemagne pour ceux qui étudient l'allemand et un voyage en Angleterre pour les sections européennes.
Qui s'occupe des voyages scolaires ?
Alors ce sont les professeurs, la gestionnaire, moi-même qui décide et puis le conseil d'administration.
Comment sont-ils organisés et choisis ?
Alors les voyages scolaires sont organisés par les professeurs qui décident suivant ce qu'ils ont envie de faire dans leur offre pédagogique. Ensuite il y a un appel d'offres qui est publié sur internet en fonction de ce qu'on veut. Par exemple pour le ski on veut absolument être proche des pistes. Pour le voyage en Angleterre, on voulait absolument qu'il y ait une initiation au baseball, etc. Donc après, ce sont des organismes qui répondent à l'appel d'offres. On fait une commission, on ouvre ce qu'on appelle les plis, qui sont les enveloppes où chaque gens qui répondent à l'appel d'offres font des propositions de prix et on choisit celui qui nous plaît le mieux.
Pourquoi y a-t-il des voyages scolaires qui sont organisés ?
Et bien pour ouvrir l'esprit aux élèves et puis pour leur faire découvrir aussi un petit peu autre chose que d'eux.
Pourquoi tous les professeurs n'organisent-ils pas de voyages scolaires ?
Parce qu'il y a certains professeurs qui ne souhaitent pas s'impliquer dans ces voyages scolaires, parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement. Ça veut dire aussi que les professeurs, pendant qu'il y a les voyages scolaires, s'ils ont une famille, ils laissent aussi leur famille. Et puis, il y a des professeurs qui souhaitent parfaitement faire cours. On ne peut pas faire que des voyages scolaires, on n'est pas une agence de voyage, quoi.
Pourquoi les voyages scolaires sont-ils moins chers que quand nous partons tout seuls ?
Alors, la première des raisons, c'est parce qu'effectivement, on fait un appel d'offres. Donc, on prend, les gens le savent, voilà, ils font des efforts sur les prix. La deuxième raison pourquoi c'est beaucoup moins cher, c'est qu'en fait, c'est aussi en dehors des vacances scolaires et que les prix sont plus chers pendant les vacances scolaires qu'en dehors.
Pourquoi les voyages scolaires ne sont-ils pas payés par le collège ?
Parce qu'on ne pourrait pas, parce qu'on ne peut pas payer les voyages scolaires par le collège, puisqu'on a un budget qui est limité, et ce budget, on doit faire le chauffage, les feuilles de copie, l'eau, la liaison, l'électricité, et on paye tout ça, le téléphone, et on ne peut pas payer non plus les voyages scolaires en plus, quoi.
Pourquoi on ne fait pas plusieurs voyages dans l'année ?
Parce qu'il faut aussi faire un peu court et qu'on ait aussi le programme qui soit fait. Donc on ne peut pas partir tout le temps, on n'est pas une agence de voyage, hein, voilà, donc c'est pour ça.
Pourquoi les voyages scolaires ne sont-ils pas organisés par classe ?
Alors ça, c'est parce que si on les faisait par classe, le but du voyage scolaire, pourquoi c'est aussi moins cher ? C'est parce qu'on remplit en entier un bus de 50 places ou plus. Donc il faut minimum souvent 50 élèves pour partir en bus.
Pourquoi les voyages ne durent-ils pas plus longtemps ?
Parce qu'après, il faut faire court. ça a l'air bête comme ça à dire, mais effectivement, faut quand même faire le programme, faut faire tout ce qu'il faut, et on peut pas partir en général plus de 15 jours, c'est pas possible. En plus que le week-end, c'est compliqué après pour trouver des gens qui veulent bien accepter de vous héberger le week-end, quoi.
Pourquoi n'y a-t-il pas un voyage scolaire organisé par niveau et par année?
Alors, il y a quand même pratiquement, si vous avez vu, 4 voyages scolaires qui ont été organisés là cette année. Donc, ça ne fait pas un par niveau et par année, mais ça fait quand même beaucoup à organiser, puis c'est vraiment beaucoup d'organisations. Donc, on ne peut pas décider que ce soit un par niveau et par année, parce qu'on n'est pas sûr que les familles aussi pourraient payer chaque année le prix des voyages. C'est pour ça qu'il y a aussi des sorties gratuites.
Après cette interview qui nous a bien expliqué comment s'organisent les voyages scolaires, nous avons essayé de rechercher l'intérêt de ces voyages scolaires ainsi que leurs inconvénients.
Les avantages des voyages scolaires sont qu'ils sont moins chers car il faut partir à plusieurs, au minimum une classe, donc au moins une vingtaine de personnes. C'est comme du covoiturage.
Ça nous fait découvrir de nouveaux paysages et aussi un nouvel environnement que l'on ne connaît pas et qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de découvrir avec sa famille pour des raisons diverses. Ça change que de rester chez soi devant la télé, ça nous vide l'esprit et on se libère.
On apprend des choses que l'on n'apprend pas au collège. On visite des musées ou des monuments historiques des autres villes ou pays. Donc, au niveau culturel, on apprend beaucoup. On fait des voyages avec nos camarades, cela nous plaît beaucoup.
Les inconvénients des voyages scolaires sont qu'il faut rattraper les cours manqués lors de ces voyages ou sinon nous sommes très en retard par rapport à la classe.
Tout le monde ne peut pas y aller, car certaines familles peuvent avoir des problèmes financiers.
Les trajets peuvent être très longs, car les voyages scolaires se font souvent en car pour réduire les coûts, et ces cars ne sont pas toujours très confortables.
Pour conclure, aller en voyage scolaire, c'est une chance, mais ça reste assez cher pour de nombreuses familles. Ça serait bien que pendant l'absence des élèves qui partent au voyage, les cours soient pris automatiquement pour eux.
J'ai eu la chance de partir à plusieurs voyages, et j'ai bien aimé les activités qui sont proposées, que je n'aurais pas pu faire en famille.
Nous avons eu de la chance d'être partis en voyage scolaire au Pays de Galles, au ski et à Annecy. C'était super. Car l'ambiance avec les professeurs n'est pas la même. On peut dormir une semaine avec nos copines et nous avons visité plusieurs monuments. Et nous avons goûté de nouvelles saveurs.
Les voyages scolaires m'intéressent beaucoup car ça nous permet d'apprendre de nouvelles choses pour se cultiver davantage et nous libérer pour un moment des cours. Nous allons maintenant accueillir Yacine et Alexis qui vont nous parler des mangas.
Et oui, aujourd'hui nous allons parler des mangas. En effet, de nos jours, beaucoup de jeunes aiment lire ces bandes dessinées japonaises, car ce genre de livre propose divers styles d'histoires qui peuvent plaire à tous. Mais pourquoi les mangas sont-ils si populaires à notre époque? Tout d'abord, nous allons parler de l'histoire des mangas, ensuite nous présenterons les différents types de mangas, et enfin, on parlera des avantages et inconvénients de ce genre de livre.
L'histoire des mangas. Les mangas étaient inventés par un célèbre caricaturiste et peintre japonais. Les mangas de Hokusai étaient des rouleaux qui caricaturaient des personnages populaires. Le mot manga signifie « histoire dérisoire ». Au Japon, le terme manga désigne tout simplement la bande dessinée au sens large. Les dessins mangas sont souvent inspirés par les productions hollywoodiennes. Un célèbre mangaka s'est inspiré des yeux de Blanche-Neige et des comics des années 50. Ces personnages ont donc des gros yeux, car ils montrent une forte expression. Cependant, il y a une différence dans le style de narration entre BD franco-belge et les mangas. Au Japon, l'aspect humain occupe une place centrale, par contre en Europe, c'est l'aspect graphique. L'autre particularité des mangas japonais est leur sens de lecture. On le lit de droite à gauche.
Parmi les différents types de mangas, il y a le type Kodomo, donc ce mot signifie « enfant » en japonais. Ce type de manga a pour cible un public de jeunes entre 6 à 11 ans. Par exemple, on a Pokémon de Hideroni Kusaka et Hamtaro de Ritsuko Kakusai. Il y a aussi le type seinen. Ce mot signifie « jeune homme » en japonais. Ce type de manga était à l'origine destiné à un public de jeunes hommes de 18 à 30 ans. Ce public s'est élargi aux adultes en général, hommes ou femmes. C'est un manga pour adultes, que ce soit à propos des graphismes ou de l'histoire. Les types de mangas seinen contiennent des récits d'aventures, des intrigues sentimentales ainsi que des thrillers ou chroniques de la vie quotidienne. Par exemple, on a Quartier lointain de Jiro Taniguchi et One Punch de One. Il y a aussi le type shonen, ce mot signifie jeune homme en japonais. Ce type de manga a pour cible un public de garçons compris entre 10 et 15 ans. La plupart des récits ont souvent pour héros un jeune garçon auquel le lecteur s'identifie facilement. Il possède souvent un talent caché qui lui permettra de se dépasser et d'accomplir de grandes choses. Les thèmes sont le courage, la persévérance, l'amitié ou encore le don de soi. Les exemples les plus connus sont Dragon Ball, Naruto ou encore One Piece. Il y a aussi le type shoujo. Ce mot signifie « jeune fille » en japonais. Ce type de manga s'adresse à un public plutôt féminin et jeune. Ses récits abordent des sujets variés tels que la musique, l'école, le sport, la mode, avec pratiquement toujours comme toile de fond des histoires d'amour. Ce genre à part entière possède ses propres codes graphiques. Par exemple, on a Fuchigi Yugi, Fruit Basket et Nana.
Maintenant, je vais vous parler des avantages et des inconvénients des mangas. Il existe plusieurs avantages. Ils sont accessibles à tous. Cela nous permet de lire, ce n'est pas cher, environ 7 euros, ou même gratuit si on les emprunte au CDI ou à la médiathèque. En plus, cela nous ouvre des portes vers d'autres cultures, notamment la culture japonaise. Il existe aussi des inconvénients. Ces inconvénients sont le prix des DVD qui limite l'accès à certains publics et cela nous réduit l'envie de lire. En plus, le sens de lecture est contraire au nôtre.
En conclusion, il y a de nombreuses catégories de mangas. Le manga s'adapte aux différents publics. Ce genre plaît beaucoup pour deux raisons principales. Le manga parle des préoccupations des jeunes et le héros a souvent notre âge. On peut s'identifier à lui tout en découvrant un autre univers. Selon moi, cela représente un autre univers pour les jeunes. J'aime bien les mangas car il y a différentes variétés. Moi, par exemple, je préfère les mangas qui sont plutôt de style d'action, par exemple Dragon Ball, Naruto ou encore One Piece.
Et selon moi, c'est bien car si on n'aime pas lire, on peut toujours le regarder en dessin animé.
Les mangas ne m'intéressent pas forcément car je ne lis pas ce genre de livres, mais de nos jours, les jeunes deviennent de plus en plus accros aux mangas. Nous allons maintenant écouter Nicolas et Alexis qui vont nous parler de l'Euro et des Jeux Olympiques.
Le sport a toujours fait partie de nos vies. Il prend une place importante dans la société au niveau de l'économie, de l'hygiène de vie, mais quelle est réellement son importance dans l'économie des pays ? Nous avons donc voulu savoir pourquoi il y a de grandes compétitions sportives internationales.
Tout d'abord, il y a plusieurs grandes compétitions internationales. Les deux plus importantes sont les JO et le Mondial ou l'Euro. Les Jeux Olympiques se tiennent tous les 4 ans, les années paires, en alternant Jeux Olympiques été et Jeux Olympiques hiver. Ils sont organisés par le CIO, Comité International Olympique. Dans ces Jeux Olympiques, on retrouve tous les sports, l'athlétisme, la natation, etc. L'Euro et le Mondial de football sont des événements sportifs aussi populaires que les Jeux Olympiques. Ce sont des championnats de football où s'affrontent les meilleures équipes. Cette compétition est organisée par la FIFA.
Ces événements sportifs ont une certaine influence sur le pays organisateur, avec des inconvénients comme des avantages.
Les côtés positifs sont, c'est une réelle chance pour ce pays car cela lui permet de continuer son développement. En effet, cela crée des activités économiques car il faut construire des stades, des hôtels, des autoroutes. Donc ça crée de l'emploi et ça attire de nombreux touristes cette année-là.
Le pays qui accueille s'ouvre sur le monde car il reçoit des gens de tous les pays. Par exemple, pendant les Jeux Olympiques à Pékin, presque toute la population mondiale était représentée avec la participation de 204 nations. Les Jeux Olympiques présentent l'avantage de réunir des cultures et des civilisations différentes. Donc, les Jeux Olympiques entraînent systématiquement une ouverture sur le monde très importante de la part du pays hôte. Cela peut, dans certains cas, contribuer à son évolution, surtout en matière culturelle.
Ces rencontres sportives créent des liens sociaux entre les supporters d'un même club ou d'un même pays. Par exemple, lors des Jeux Olympiques de Pékin, 4,7 milliards de téléspectateurs ont regardé les Jeux Olympiques.
Ces compétitions sportives comportent aussi des aspects négatifs, comme une hausse locale et momentanée des prix du coût de la vie. Les commerçants en profitent pour augmenter leurs prix et la vie devient donc difficile pour les gens du pays. Pour construire des stades, des autoroutes, des hôtels, on expulse souvent des gens de leur maison, souvent les plus pauvres. Certaines constructions sont inutiles par la suite. Le droit du travail n'est pas respecté. Les ouvriers sont exploités. Pour finir, les chantiers dans les temps. Il y a souvent eu des scandales dans l'actualité, comme en ce moment avec la préparation du Mondial au Qatar, avec la mort de nombreux ouvriers.
En conclusion, il existe de nombreuses compétitions sportives. Elles sont pour la plupart toutes connues. Elles présentent des avantages et des inconvénients. Mais pour chacun de ces événements, il y a toujours des pays candidats, car c'est un moment fort pour le pays, car tous les médias ne parlent que de cet événement sportif et ça met en valeur le pays hôte de ces compétitions. Moi, je pense que c'est bien, car cela nous permet de se réunir entre tous et de partager nos passions.
Je suis fier que l'Euro se passe en France, car je suis français, et ça promet de bons moments avec ma famille et mes amis. J'aurai peut-être l'occasion d'aller voir des matchs au stade.
Je trouve ce sujet intéressant, mais je ne suis pas beaucoup sportive, donc je ne m'y connais pas vraiment. Tout de suite, Florent et Valentin nous parlent des compétitions de jeux vidéo.
Bring the action. À notre époque, la plupart des jeunes aiment les jeux vidéo et certains en ont même fait leur profession. Et pour cela, nous allons vous parler de ce phénomène qui fait un peu polémique en ce moment. Nous avons décidé d'organiser cette chronique en trois parties.
D'abord, nous allons vous expliquer ce qu'est l'e-sport. Ensuite, nous allons vous parler des joueurs et de leur statut. Enfin, nous allons voir les conditions de participation pour entrer dans une compétition professionnelle.
Qu'est-ce que l'e-sport ?
Alors l'e-sport, c'est une compétition de jeux vidéo ou sport électronique, e-sport en anglais, désigne la pratique d'un jeu vidéo obligatoirement multijoueur, avec un ordinateur ou une console. Jouer aux jeux vidéo n'est plus réservé à quelques ados dans une chambre ou dans une soirée entre amis. Depuis plusieurs années, les compétitions des jeux vidéo connaissent un succès croissant.
Cette nouvelle pratique attire des sponsors, des diffuseurs et du public dans le monde entier. Amazon a par exemple racheté pour plus $1 milliard une chaîne de télévision qui diffuse uniquement des compétitions de jeux vidéo. Le secteur est également promis un bel avenir en France. Qui sont les joueurs professionnels ?
Les joueurs professionnels, ou pro-gamers en anglais, qualifient des personnes gagnant leur vie en jouant aux jeux vidéo. Pour être rémunéré, le joueur de haut niveau est financé par les sponsors et par les revenus générés par la diffusion en streaming, en live devant des personnes. C'est-à-dire qu'il joue sur une plateforme, par exemple Twitch, et les spectateurs qui regardent chez eux peuvent donner de l'argent pour soutenir le joueur favori.
Le joueur et son équipe participent à des LAN parties, des matchs compétitifs importants aux quatre coins du monde. En cas de victoire, ils remportent une somme d'argent mais surtout une réputation qui peut intéresser les sponsors. Comme pour les retransmissions de rencontres sportives traditionnelles, l'e-sport possède ses propres commentateurs afin de commenter un match. Ces personnes sont très appréciées pour leur capacité à décrire précisément les actions des joueurs. Quel statut pour les joueurs ?
Selon la secrétaire d'État au numérique, Axel Lemaire, 200 joueurs gagnent leur vie en France grâce aux compétitions de jeux vidéo et 500 personnes participent régulièrement à des tournois physiques ou en ligne. C'est pourquoi les joueurs pros peuvent maintenant bénéficier d'un contrat de travail spécifique car les sénateurs français ont adopté le lundi 2 mai 2016 un amendement au projet de loi permettant sa création.
Ce contrat propose de sécuriser le statut du joueur pro-salarié en créant un CDD, contrat à durée déterminée, d'un an minimum et de 5 ans maximum. Les joueurs ont donc des contrats de travail et un statut d'auto-entrepreneur. Mais Valentin, quelles sont les conditions de participation pour pratiquer la compétition ?
En résumé, les participants vont devoir se conformer à la limite d'âge qui est définie par l'organisateur national. L'âge requis varie selon la limite d'âge du jeu, par exemple Counter-Strike Global Offensive. La limite d'âge pour jouer est de 16 ans, donc l'âge requis pour la compétition est de 16 ans. Sinon, Florent, y a-t-il des contraintes ?
Oui, il y a comme par exemple le décalage horaire. S'il y a des compétitions aux États-Unis, la MLG Columbus, il y a au moins 7 heures de décalage.
Mais souvent, du coup, les joueurs doivent jouer la nuit.
S'ils veulent s'entraîner avec leurs joueurs qui sont peut-être américains ou allemands, il faudra prendre le décalage horaire en compte. Et oui, ils peuvent jouer du coup la nuit.
Y a-t-il d'autres contraintes ?
Ils peuvent délaisser leur famille, vu qu'ils doivent s'entraîner du coup la nuit et ils passent beaucoup de temps devant leur écran. Mais certains joueurs, comme Pacha Biceps, qui est polonais, est déjà marié à un enfant, donc c'est un peu dur pour lui avec sa vie de famille.
De grosses sommes sont en jeu dans ces compétitions sportives. Prenons l'exemple de compétition de Counter-Strike.
Donc MLG Columbus, elle se situe dans la MLG Arena à Columbus, dans l'Ohio, aux USA. Elle se déroule du 29 mars au 3 avril tous les ans, et la totale de la somme à gagner est de $1 million. Il y a 6 lots en tout et 16 équipes. Le premier gagne $500 000 et le 13e gagne $8 750. Valentin, peux-tu nous faire une conclusion de tout cela ?
En conclusion, les jeux vidéo sont un moyen de se détendre, mais certains passionnés vont aussi aller jusqu'à en faire leur propre métier. Les joueurs peuvent beaucoup s'entraîner et cette pratique requiert des réflexes, des stratégies de jeu et des connaissances énormes.
Pour ma part, le sujet, je le trouve bien, mais peu de gens peuvent vraiment devenir professionnels car il faut avoir un excellent niveau pour pouvoir le faire. Et c'est rare de se faire remarquer par des sponsors. Et pour devenir expert, il faut beaucoup de sacrifices et il faut jouer plusieurs heures, au moins 8 heures par jour.
Oui, effectivement, c'était un sujet très intéressant, car on entend parler de ces compétitions partout sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça m'a donc permis de comprendre plus dans les détails comment se passent les compétitions.
Merci de nous avoir parlé des jeux vidéo. Ce sujet m'a permis d'apprendre davantage de choses. Je joue quelquefois aux jeux vidéo, mais je n'y accorde pas beaucoup de temps. Pour finir, Imen et Sokaina nous parlent des overboards.
L'overboard est une nouvelle tendance très populaire en ce moment. C'est une sorte de skateboard moderne qui roule toute seule et qui permet de se déplacer partout où l'on veut. L'overboard est utilisé par des personnes de tout âge, mais beaucoup plus par les jeunes. L'overboard s'est fait connaître grâce au film Voyage vers le futur. Cette machine peut atteindre les 5 à 15 km et peut supporter plus de 100 kg. Mais quels sont les avantages ?
Cet engin motorisé a plusieurs avantages. D'abord, il permet de se déplacer sans faire d'effort, car cette machine est électrique. Elle roule seule, pas besoin de marcher. C'est pratique pour aller au travail, à l'école ou encore pour s'amuser avec. Puis l'overboard est économique. Il fonctionne avec une batterie comme pour les voitures électriques. Cela signifie qu'il ne pollue pas et il suffira de le charger soi-même chez soi à la maison. Bien sûr, cette machine a aussi des inconvénients.
Les inconvénients de cet engin motorisé est qu'il est trop cher, son prix varie entre 300 et 900 euros, mais il est aussi dangereux car l'overboard peut prendre feu. Il y a eu plusieurs histoires dans l'actualité d'overboard qui ont pris feu quand on les recharge. En plus, les personnes qui ne savent pas l'utiliser peuvent tomber et se faire très mal. Par exemple, un jeune de 15 ans est décédé en décembre 2015 car il est tombé de son overboard et a été renversé par un bus.
Plusieurs accidents se sont déroulés en Australie et aux États-Unis, et les overboards sont même interdits sur les voies publiques au Royaume-Uni. En conclusion, nous trouvons que l'overboard est génial, car nous pouvons nous déplacer partout, mais le problème de cet engin est qu'il est cher, dangereux et qu'il peut nous rendre paresseux.
Personnellement, je ne l'achèterai pas car il est cher et ne me servira à rien. Je préfère encore marcher que de gaspiller mon argent pour un truc inutile et dangereux.
Je pense la même chose que ce Kaina, mais l'overboard peut entraîner des problèmes musculaires plus tard à force de ne pas marcher, de l'utiliser quotidiennement.
J'aime ce dernier sujet car j'ai déjà fait de l'overboard et que c'est très pratique, mais il peut aussi nous rendre très feignants. Tous ces sujets m'ont appris beaucoup de nouvelles choses. Je remercie tous mes professeurs qui nous ont donné la chance de pouvoir faire ça. C'était notre dernière émission à la radio Grand Ciel. Au revoir à tous. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. Mine's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out.
Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face saying, wake up, you need to make money.